nous vous proposons une série de deux émissions réalisées à partir d'un entretien resté complètement inédit avec Roger Pestouri. Faut-il présenter Roger Pestouri, avec qui nous avons réalisé dans cette radio plus de 30 émissions de son vivant? Roger, qui avait pris Radio Canu et notre émission en grande amitié, nous a offert de nombreux grands moments de radio. Il était un personnage quasi historique, ayant su, doté d'une riche expérience de vie, dont il savait magnifiquement faire part en s'impliquant très fort dans ses propos. Il y a plus de 13 ans, au tout début de notre rencontre, deux jours avant notre premier entretien radiophonique réalisé, celui-là, en direct à Radio Canu, le 17 septembre 2001, nous l'avions rencontré chez lui pour préparer cette première émission et nous avions, avec son accord bien sûr, enregistré ce premier entretien de travail sans idée préconçue sur son devenir autre que pour repérer dans ses propos des éléments pour la rencontre à venir en direct. Pour différentes raisons que vous découvrirez peut-être au fil de l'entretien, nous n'avons jamais utilisé ce premier entretien qui nous posait différentes questions qui restent entières. Mais aujourd'hui, juste 4 ans après sa disparition le 17 janvier 2011, on est saisi, comme toujours avec lui, par la profondeur et la richesse humaine de ses propos. Nous avons décidé de vous les proposer. Vous allez l'entendre parler et il sera aussi présent que s'il était toujours parmi nous. L'entretien n'a pratiquement pas subi de montage, seulement quelques ajustements de niveau sonore et effacement de bruit parasite. Roger est quelqu'un qui, un jour, a mis à la porte des marchands venu lui acheter à prix fort ses archives de résistants en leur disant simplement que le sang des copains n'était pas à vendre. L'esprit de Roger Pestouri, c'était cela, tout simplement. Écoutez-le bien, Roger était un personnage d'exception dont l'absence nous pèse chaque jour.
Sans que je puisse m'en défaire, le temps met ses jambes à mon cou. Le temps qui part en marche arrière me fait sauter sur ses genoux. Mes parents, l'été, les vacances, mes frères et sœurs faisant les fous. J'ai dans la bouche l'innocence des confitures du mois d'août. Une guérie de son enfance, une guérie de son enfance. Les nappes ronds et les ombrelles qu'on ouvrait à l'heure du thé pour rafraîchir les demoiselles roses dans leur robe d'été. Et moi le nez dans leur dentelle, je respirais à contre-jour dans le parfum des mirabelles, l'odeur troublante de l'amour. Une guérie de son enfance, une guérie de son enfance. Le vent violent de l'histoire allait disperser à volo notre jeunesse dérisoire, changer nos rires en sanglots. Amour orange, amour amer, l'image d'un père évanoui qui disparut avec la guerre renaît d'une force inouïe. Une guérie de son enfance, nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Celui qui vient à disparaître, pourquoi l'a-t-on quitté des yeux? On fait un signe à la fenêtre sans savoir que c'est un adieu. Chacun de nous a son histoire et dans notre cœur à l'affût, le va-et-vient de la mémoire ouvre et déchire ce qu'il fut. Il ne guérit que de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Belle, cruelle et tendre enfance, aujourd'hui c'est à tes genoux que j'en retrouve l'innocence au fil du temps qui se dénoue. Ouvre tes bras, ouvre ton âme, que j'en savoure en toi le goût. Mon amour frais, mon amour femme, le bonheur d'être et le temps doux. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance.
Comment vous avez vécu, vous et autour de vous, ces situations de résistants?
Oui, je pense que, disons, l'idée centrale, le thème, ce serait peut-être avoir 20 ans en 1940.
Ouais.
Parce que ça exprime bien, premièrement, la résistance, la part que les jeunes ont apportée à la résistance. Parce que c'est les jeunes qui ont fait l'essentiel dans la résistance, même s'il y a eu un mouvement en profondeur qui touchait toutes les couches de la société. C'est la jeunesse qui, en définitive, a été engagée et a fait ses choix avec tous les problèmes qui étaient liés à cet engagement.
C'est vrai, mais vous dites avoir 20 ans, il y a beaucoup de monde qui a eu 20 ans en 40, voilà. Et tout le monde n'est pas devenu résistant.
Voilà. Alors je pense que là aussi, il y a une expérience. Et je pense que c'est très important parce que le fait que nous, cette catégorie de jeunes à laquelle j'appartenais, nous étions, était ce qu'on appelait engagés. Nous étions engagés. Ça nous a mis dans une situation de maturité qui nous a permis ensuite de faire des choix beaucoup plus responsables. J'ai cette expérience lorsque plus tard, en 1943, nous avons constitué à Lyon les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique. Tous ces mouvements de jeunesse qui étaient structurés avant la guerre ont été le facteur essentiel et ont fait preuve de la maturité indispensable pour construire une structure où se retrouve toute la jeunesse de ce pays, de n'importe quelle sensibilité qu'elle soit, c'est-à-dire les jeunes chrétiens, les jeunes gaullistes, les jeunes communistes, les jeunes inorganisés et tout. Et là, mon expérience, c'est que quand nous avons construit ce qu'on a appelé les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, il y a eu toujours cette rencontre entre les jeunesses communistes qui étions déjà constitués avant-guerre, puisque nous avons découvert le fascisme, mais pas simplement découvert le fascisme, lutter contre le fascisme avec la guerre d'Espagne, qui a été l'élément moteur pour nous engager en tant que militants, avec évidemment le Front Populaire, avec tous les événements qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, qui ont précédé 1940. Et ça nous avait donné cette maturité qui nous a construit pour ensuite, dans la résistance, apporter cette maturité dans les choix, dans les besoins. Et on a retrouvé ça ici, à la JOC, à la JEC, c'est-à-dire dans les milieux catholiques, les milieux chrétiens. C'est-à-dire ces structures d'organisation de jeunes qui étaient déjà construites avant 1940. C'est quelque chose qui m'a absolument surpris. Et ça a été pour moi un enrichissement très grand. Parce que c'est avec ces milieux-là, avec cette expérience que nous avions vécue, où nous retrouvions quelque chose de commun, qui fait que nous nous retrouvions à nouveau engagés dans un combat où chacun se rejoignait dans sa manière d'exprimer la situation. Et quand on a eu les gaullistes et tout, les plus grosses difficultés qu'on a eues, c'était avec les fuges. Les fuges, c'était les Forces Unies de la Jeunesse, c'était le mouvement gaulliste de la jeunesse. C'est un mouvement qui s'était construit dans la résistance. Il n'avait aucun passé, puisque ça s'appelait Forces Unies de la Jeunesse, c'était les gaullistes. Et là, nous avions beaucoup de difficultés pour construire, pour nous structurer, parce que c'est de leur côté que venaient les armes, parce qu'ils étaient en liaison plus que nous avec Londres, avec même les officiels à un certain moment. Et les grosses difficultés que nous avons ressenties, c'est avec ses camarades qui n'étaient pas moins courageux, mais il y avait chez eux une manière d'explication à l'emporte-pièce où on sentait qu'il n'y avait pas cette communauté de valeurs, cette construction qui était déjà réalisée entre ces structures d'avant-guerre, et en particulier la jeunesse communiste, la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, les scouts, l'union de la jeunesse juive, qui était déjà tant soit peu organisée avant-guerre. Vous voyez, c'est une expérience qui a été pour moi très, très interrogative, très, très interrogative. Et je pense que tout est parti de là. Tout est parti de là.
Pourquoi interrogatif, vous dites très
interrogatif. Ben, parce que je m'interrogeais ces jeunes gaullistes, avec les difficultés que nous avions au niveau du langage, au niveau de la communication, où il y avait des difficultés considérables, parce que nous n'avions pas d'armes, ils avaient des armes, ils marchandaient les armes, ils discutaient, ils tatillonnaient sur des choses secondaires, alors que nous, nous considérions qu'il y avait un objectif essentiel, c'était cette communauté de pensée, d'action, et de créer quelque chose comme une sorte d'âme qui véhicule entre nous, ou qui communique entre nous, qui nous découvre, qui fait qu'on est les vrais camarades. Et nos amis gaullistes, moi je les aimais beaucoup, parce qu'ils ont fait beaucoup, ils ont donné beaucoup. Toute l'équipe des Fuges a été décimée, place du Pont, ils ont tous été arrêtés là-bas, et fusillés les uns après les autres, et ils ont marqué un courage extraordinaire. Mais dans la construction des structures des FUGEP, il faut dire que nous avons beaucoup, beaucoup discuté avec eux sur des questions, disons, matérielles, alors qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup supérieur, c'était au niveau des valeurs, ce qui justifiait à ce moment-là cette cohésion entre nous tous, dans notre différence, dans nos particularités, mais avec cette perspective essentielle. Voilà l'interrogation sur quoi elle reposait.
Vous êtes arrivé à Lyon en 1943, en fait.
Le 12 mars 1943.
Et avant, je vais dire, qu'est-ce que vous êtes arrivé là parce qu'on vous y a envoyé.
Voilà.
Mais avant, vous aviez commencé vos activités de résistant depuis quand?
Depuis 1940.
Depuis
1940. Voilà, tout de suite, ça a commencé tout de suite. Ça a commencé tout de suite parce qu'à ce moment-là, j'étais exploitant agricole dans le Lot. J'avais une exploitation de 17 hectares avec ma grand-mère. Mon frère était prisonnier de guerre. Et au moment où la défaite est intervenue, j'ai fait mon choix. Et à partir du moment où j'ai fait mon choix, j'ai fait des démarches pour trouver des contacts, bien sûr. Et alors j'ai pris des contacts avec des camarades. Ça a commencé comme
votre
ça.
Votre choix, c'était quoi?
Mon choix, c'était de faire quelque chose. C'était de pas rester impuissant. C'était ce besoin absolu, dans cette situation tragique, de ne pas être impuissant, d'agir. Je savais pas dans quelle direction. Je savais pas, je connaissais pas les appels ni de Londres, ni les appels de Torres et Duclos. Je connaissais pas ça. C'est instinctivement que j'ai été amené à construire ce support à moi-même pour un engagement qui m'a contraint presque de force à m'échapper de mon exploitation agricole et d'aller rechercher des liens, d'aller rechercher un contact. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec les jeunesses communistes et qu'on m'a confié des responsabilités. Alors les responsabilités à ce moment-là, c'est que c'était dans un pays où...
Vous êtes passé tout de suite à la clandestinité ?
Non, pas du tout. Je suis resté avec mon nom jusqu'au 12 mars 1943. Par contre, dans toute mon activité, on ne me connaissait pas sous le nom de Roger Pestouri. On me connaissait sous le nom de Maurice, le pseudonyme Maurice. Parce que j'avais plusieurs départements. J'avais ce qu'on appelait l'interrégion de Limoges. Alors l'interrégion de Limoges, il faut dire comment nous avons structuré les jeunesses communistes. Les jeunesses communistes, nous nous sommes trouvés une équipe de jeunes et nous sommes partis à 42. Nous nous sommes dispersés dans toute la France parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout était parti, l'organisation, 90% de Français auraient voté Pétain s'il y avait eu des élections à ce moment-là. Il y avait une atmosphère absolument insupportable et nous étions là, ces jeunes. Moi, j'en connaissais quelques-uns à Limoges, d'autres à Paris, tout ça. Nous nous sommes structurés, nous avons dit qu'il faut mettre en route l'organisation qui est des relais sur le plan national. Donc nous avons envoyé des responsables dans un groupe de départements et d'autres dans des missions plus particulières. Nous étions 42. Moi, on m'a envoyé à Limoges pour prendre la direction d'une interrégion, comme d'autres ont pris l'interrégion à Toulouse, d'autres ont pris l'interrégion à Lyon, d'autres à Paris, et d'autres des jeunesses communistes se sont structurés pour déjà créer les structures du Front patriotique de la jeunesse qu'on a constitué ensuite. Il y avait tout ça. Et nous sommes partis à 42, nous nous sommes dispersés dans toute la France, et sur ces 42, il y a eu 24 fusillés, guillotinés ou morts en déportation. Vous voyez. Quand la libération est venue, nous avons fait l'inventaire, on appelait ça les membres de la direction nationale des jeunesses communistes. Elle a été très décimée au départ, parce qu'évidemment c'était très, très difficile et l'enjeu était grand. Donc, de mars de 1940... jusqu'en mars 1943, et déjà à ce moment-là, nous avons passé 2-3 nuits à piquer du matériel militaire de l'armée pour le planquer. Et on a planqué ses armes, tout ça, à une maison qu'on appelait la maison des chouettes. Et là, on a déjà stocké ce matériel. Il y avait déjà un souci à ce moment-là de faire quelque chose pour que, premièrement, les Allemands, les envahisseurs, ne prennent pas possession de tout, y compris de l'armement, et qu'il fallait prévoir l'avenir. C'est un peu comme ça que les choses se sont construites. Et voilà, ça a commencé là. Alors, j'ai commencé dans ces départements. Il y a les jeunesses communistes. Après, on m'a mis au Parti communiste parce que le Parti communiste n'existait pas. Après, en 1941, on m'a mis au Front national parce que le Front national, il fallait le constituer. Il ne fallait pas rester sur nos propres forces. Et j'ai constitué le Front national en 1941 dans le Lot. Je m'en rappellerai toujours, c'était au lycée de Cahors. Et c'est la femme de Roger Garaudy qui a été la première engagée au Front National. Elle était professeure au lycée de Cahors, avec des élèves là-bas. C'est comme ça. C'est comme ça que le rodage s'est fait. Le parti, la jeunesse communiste, le Front National, le Front patriotique de la jeunesse. On a constitué le Front patriotique de la jeunesse. On a structuré tout ça à l'échelon de ce département. Et j'étais un peu, disons, le maître d'œuvre de tout ça, avec mes équipes, avec... tout le support qui était nécessaire.
Et vos actions en dehors de l'organisation, c'était quoi? Parce que vous ne tuiez pas d'Allemands à cette époque-là, vous ne faisiez même pas d'embuscade. Des tracts quand même.
Ah oui, c'était s'exprimer. Tout est parti de là. C'était la bataille des idées. Parce que devant ce mur hostile, les gens, vous savez, il y avait tout. Il y avait déjà les débuts du marché noir, il y avait toute cette crasse qui s'installait dans ce pays, ce défaitisme qui s'installait dans ce pays. Il y avait toutes ces choses-là. Pour remonter la pente, vous étiez tout seul, vous étiez complètement isolé. Alors c'était la bataille des idées. On en a fait des tracts. Chez moi, là-bas, à Gignac, dans ma propriété, j'avais une machine à écrire. J'avais une machine à écrire que je camouflais dans un rucher. le rucher se trouvait en contrebas. Alors j'amenais ma machine à écrire dans ce rucher. Il n'y avait pas d'abeilles. Et alors je planquais ça. Alors j'avais fait des cours de dactylo à l'école Pigier. Alors je tapais les stencils. C'était très difficile, les stencils, parce que c'est très délicat. Et les stencils, je les donnais ensuite pour les rodéos et tout ça. Alors ça, c'était, on a commencé par ça. On a commencé par trouver les moyens. On appelait ça l'appareil technique. Il fallait installer l'appareil technique. La première mission, c'était de nous donner les moyens de nous exprimer d'une façon ou d'une autre. Parler, s'exprimer. Ça a commencé comme ça. Et ça a duré des mois et des mois. Et cette campagne d'explication s'est poursuivie. Quand nous avons constitué le Front National, il fallait expliquer aussi. Quand nous avons constitué le Front Patriotique de la Jeunesse, il fallait expliquer aussi, élargir les bases et tout. Mais au départ, c'est cette campagne, l'écrit. Au début, il n'y avait pas, dans nos régions, là-bas, nous avions des groupes de protection. C'est ce qui est devenu ensuite des groupes armés, on appelait ça des groupes de protection, parce qu'on a fait des bêtises. Moi, quand j'allais à Limoges, j'étais protégé, j'avais deux gars dans le train qui me surveillaient. Si j'avais été en danger, ils auraient tout fait pour que je m'échappe et qu'eux, ils étaient armés. J'ai jamais été armé, à aucun moment de mon activité. Nous avions ces équipes qui sont devenues ensuite des groupes armés. Mais au début, c'était des équipes de protection qui étaient chargées d'assurer notre sécurité dans nos déplacements et autres. Alors moi, ça veut dire qu'à partir de Gignac, on ne me connaissait que sous le nom de Maurice. Et à Gignac, là-bas, en principe, il n'y avait que mes camarades qui connaissaient mon activité. Les quelques-uns qui étaient dans le mouvement comme moi. Mais c'était très, très, très secret, ces choses-là. Et quand je partais, mes camarades de Gignac ne savaient pas où j'allais.
Alors pourtant, le Parti communiste était interdit, donc clandestin, et cependant, ils vous avaient identifié quand même. On ne vous cherchait pas plus de... Enfin, la police n'était pas en vous en permanence.
Non, elle n'était pas en permanence, parce que je pense qu'ils ont arrêté. En 1939, ils ont procédé à beaucoup d'arrestations. Il y a eu les camps, tout ça, il y a eu les députés communistes, mais le reste, ils ont attendu. Ils ont dit, ça s'éteindra de soi-même. Alors, nous n'étions pas... disons non. D'ailleurs, moi, quand j'ai été poursuivi, j'ai été dénoncé à Gignac. Et c'est sur une dénonciation. Sans ça, la police ne serait pas préoccupée de ma situation. La police n'était pas tellement intéressée à ce moment-là. Elle était intéressée, disons, aux députés, à la direction, ils cherchaient Maurice Thorez, ils faisaient beaucoup de spectacles là-dessus. Mais nous, dans notre activité, disons que les premiers temps, jusqu'en 1942, c'est surtout en 1942 que c'est devenu très très dangereux. C'est là qu'il y a eu les premiers otages, qu'il y a eu tout ce qu'on a connu, l'anticommunisme, c'était lié à une campagne raciste, forcenée, les juifs, etc. etc. Mais au début, nous avons constitué, structuré nos organisations. Moi, je partais pour le Lot, j'allais au Pigeon, j'ai constitué la direction du Lot du Parti communiste dans une localité qui s'appelle Le Pigeon. C'était à 20 km de Gignac, de mon exploitation agricole. Et là, j'allais voir Laval, et là, on avait un relais avec le délégué de la zone sud qui venait. On le couchait là-bas, on le protégeait, tout ça. Et là, on structurait. Et Pestouri, lui, il allait avec son vélo. Je constituais à la fois et le parti et la jeunesse communiste au départ, parce qu'il fallait tout démarrer. Et c'est comme ça qu'on a c'est parti de ces contacts individuels. C'est tout parti. Et c'était très 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 pénible, parce que des fois on tombait sur des gens qui n'étaient pas d'accord, qui était en désaccord, le pacte germano-soviétique était passé par là. Et c'était pas simple du tout. Mais il a fallu passer par là. Mais on peut dire que jusqu'à ce moment-là, la police, c'était, Non. Si, on nous surveillait. Parce que, en 1940, lorsque j'ai passé le conseil de révision, on m'a piqué mon portefeuille avec mes papiers, qu'on a retrouvés d'ailleurs lors des papiers qu'on m'a rendus lorsque, à la libération, on m'a donné tous les documents du procès du Lot-et-Garonne où j'avais été. Oui, c'était à Agen, dans Lot-et-Garonne, où on avait commencé à m'infliger 5 ans de travaux forcés. C'était ma première condamnation. Et là, on a retrouvé ces papiers qu'on m'avait piqués. Ça veut dire qu'on était quand même surveillés. Mais c'était une surveillance discrète. Tant que ça ne faisait pas trop de bruit, disons, puis on attendait. Ils étaient malins parce qu'ils disaient, on va suivre. Vous savez, c'était la souricière. On vous prend en filature, on dit celui-là il n'est pas dangereux, mais on le tient de près. On ne pouvait pas faire autrement que de ne pas être surveillé. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte à la libération, à travers les papiers de mon procès, les indicateurs qu'il y avait, même à Gignac, et la police qui m'avait piqué papier là, lors de ce conseil de révision.
L'époque germano-soviétique, vous l'avez vécu comment? Comme quelque chose d'un peu extérieur, qui ne concernait pas trop votre position?
Si, et vos choix, ça nous a beaucoup marqué, parce que ça nous a mis à dos toute la population. Et il a fallu, on ne pouvait même pas s'expliquer parce qu'on n'avait pas beaucoup d'explications. Et c'était tellement interprété qu'on disait c'est une trahison. L'Union soviétique a plongé dans le nazisme. Et ça, il y a eu des heurts terribles. Il y a eu des affrontements.
Vous, personnellement, vous restiez fidèle à quoi dans tout ça?
Moi, je suis resté fidèle au parti. Parce que j'ai dit tant que le parti existe, j'étais aux jeunesses communistes, j'étais au parti communiste. Et la position de l'Union soviétique, nous sommes partis de l'idée que des choses s'étaient passées qui étaient encore inaccessibles à notre compréhension, à notre jugement. Et ce qui nous apaisait en fait, c'est qu'on sentait qu'il y avait une menace directe contre l'Union soviétique, parce qu'on voyait bien qu'avec Munich et tout, l'intention des Anglo-Américains, des Français, c'était que l'Allemagne se retourne contre l'Union soviétique. À partir du moment où il y a eu le pacte germano-soviétique, il n'y a plus chez nous, communistes, ce danger de ce qu'on appelait la patrie soviétique, de dire au moins la Russie est préservée pendant quelque temps avec le pacte germano-soviétique. Voilà un peu le jugement que nous apportions, mais qui était contredit par l'opinion publique en général, 95% de l'opinion publique qui rejetait ça comme une trahison. Et il a fallu nous situer là-dedans. Et on s'est situé souvent par le mutisme. Moi, j'étais agressé. Je me rappelle un soir, un jour, où on dépiquait le blé. Vous savez, chez nous, quand on dépique le blé, il y a la batteuse, il y a le tracteur qui est là. Il y a tout ça, et il y a tout le village qui est là. Et j'ai été agressé très violemment par les voisins et tout. Roger, mon frère, c'est des traîtres, ton frère est prisonnier, tout ça. C'est, vous savez, quand on a 20 ans, qu'on subit ça, et on est tout seul, tout seul, absolument tout seul. Et alors, c'est la raison pour laquelle j'ai eu ce besoin, quand je parle de la page d'écriture, d'engagement, Ce qui m'a décidé, moi, c'est le passage d'un train là-bas à 500 mètres de chez moi. Il y a la ligne de chemin de fer. Je gardais mes brebis. Un train est passé et il y avait des Allemands dans ce train. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'absolument intolérable parce que dans mes souvenirs, j'étais pupille de la nation, j'étais orphelin de guerre. C'était mon père. Toute ma culture, mon grand-père, toutes les larmes versées au foyer. Ma mère avec un frère, il a été tué à la guerre. Son mari est mort gazé de guerre. Dans la maison, on ne parlait que de ce drame pendant des décennies. Le grand-père et tout, c'était la douleur et tout. Et puis je vois passer ce train avec des Allemands. C'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et c'est là que, en cultivant ma vigne et tout, j'ai fait mon premier texte, ma page d'écriture. J'ai expliqué ma rancœur et c'est là qu'est parti mon engagement. Mais je ne savais pas du tout, j'étais désemparé. C'était un besoin d'écriture, un besoin de m'exprimer. Ça, à ce moment-là, j'avais la conviction qu'il fallait faire quelque chose, mais je ne savais pas encore dans quelle direction. Mais j'ai écrit ça. J'ai écrit ça. Le texte sera d'ailleurs publié dans le livre que je vais
publier. Quelqu'un comme Michel Fernandez, que vous connaissez, je suppose, me disait que lui, sa démarche de jeune résistant était plus partie de son antifascisme. Il n'avait pas la même histoire que vous par rapport à l'histoire familiale avec les Allemands.
Voilà.
Qui s'était retrouvé tout naturellement en résistant parce qu'antifasciste.
Voilà. Moi, l'antifascisme a joué, mais cette notion de famille, mon père, ma culture que j'avais, parce que j'avais une culture très, très chrétienne. J'avais un oncle qui était prédicateur au Vatican, là-bas, il est enterré sur le parvis de l'église de Nadaillac. La famille Pastoury, c'était quelque chose qui est intégré dans l'histoire, comme l'attachement au catholicisme, à la religion pratiquante et tout. Je suis sorti de là, moi. Mais mon père, cette image de mon père, j'avais 7 ans lorsqu'il est mort, c'est-à-dire, je le vois encore sur son lit de mort, là-bas, à Cirey-Jaune et tout, lorsqu'on a été le chercher à l'hôpital de Cahors, qu'on l'a ramené pour mourir, qu'on est venu me chercher à l'école parce que c'était au moment où mon père allait expirer. Tout ça, vous véhiculez tout ça depuis l'âge de 7 ans. Et après, à 20 ans, alors que j'étais déjà engagé, il y avait l'antifascisme, il y avait surtout les républicains espagnols, il y avait surtout l'Espagne qui nous avait fascinés. L'antifascisme aussi marqué. Mais moi, les raisons de mon choix essentielles, c'est le passage de ce train, c'est ce père, c'est cette famille douloureusement frappée, et de voir que ça n'avait servi à rien, que les Allemands, ces mêmes envahisseurs, ils étaient là devant la maison. Et ça, c'est une tragédie qu'on vit terriblement. Et puis à ce moment-là, il y avait tout eu, il y avait eu le pacte germano-soviétique, il y avait eu les événements, il y avait eu la défaite, il y avait eu l'environnement, il y avait eu l'affrontement là, que je disais tout à l'heure, à ce repas où on m'a agressé comme communiste à cause du pacte germano-soviétique. Quand on a tout ce poids, on est terriblement seul, seul, complètement seul. Et alors là, faut se situer. C'est très, très, très difficile.
Votre père, il était mort des suites de ces blessures de guerre.
Gazé. Il était gazé.
Donc en
1927.
Donc il a survécu une dizaine d'années.
Voilà, dans beaucoup de souffrances d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis pupille de la nation, comme mon frère. Ma mère était veuve de guerre. Et ma mère avait un frère dans la famille. Il y a le frère Henri qui a été tué. Lui, il est porté disparu à Verdun. Vous voyez, ça veut dire toute la famille saccagée. Le grand-père et la grand-mère, le gendre mort gazé et son fils unique porté disparu. Alors là, il y a en profondeur des traces d'éléments moteurs pour vous conduire à un engagement. Je pense que tel qu'on était préparé, c'était vraiment à la vie, à la mort, personnellement. Personnellement, c'était à la vie, à la mort, parce que j'en ai le souvenir, les camarades qui reniaient le parti à ce moment-là, je pense que, je ne dirais pas que nous aurions été très méchants avec eux. C'était peut-être nos premiers adversaires. On ne pouvait pas admettre que dans ce moment terrible, où nous étions menacés, la police, les Allemands, l'occupation, qu'il y ait des reniements, qu'il y ait des gars qui tournent face, qu'il y a eu quelques députés qui ont tourné la veste, tout ça. Ça nous était insupportable. Je pense que dans l'esprit qui était notre à ce moment-là, je pense que les premiers coups de feu, ils seraient partis dans cette direction-là. Je le dis, c'est comme je le pense, comme je l'ai ressenti à ce moment-là. Et moi, il y avait mon attachement, mais qui n'était pas un attachement, disons, dogmatique et tout. Je disais, bon, ça tu comprends pas, mais en tout cas, le parti, c'est quelque chose qui va rester, parce que pour moi, c'était le seul refuge qui existait comme valeur capable de stimuler une initiative et un engagement. Et je pense que c'est ce créneau-là qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Avec peut-être... la classe ouvrière. Moi, j'étais pas un ouvrier. J'étais un paysan, j'étais bourgeois, disons. Et j'ai beaucoup aimé la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière nous a beaucoup, beaucoup inspiré. Les premiers morts et tout, c'était des camarades ouvriers, ceux qui étaient devant le peloton d'exécution, en criant « L'un vive le parti communiste allemand !» Vous voyez, c'était des ouvriers, ça. C'est cette, disons, sève ouvrière qui a donné la force et la vigueur au Parti communiste. Et moi, j'ai toujours été en admiration devant ces gens qui ont été un peu l'exemple qui m'a servi, qui m'a donné la conviction. Et la conviction, c'est indispensable. Dans ces moments-là, s'il n'y a pas la conviction, vous êtes détruit. Vous êtes absolument détruit. Il faut une conviction. On tombe dans l'absolu. Comprenez ? Il faut bien voir les situations. L'absolu, c'est pas simple, c'est pas que le dogmatisme, l'absolu. L'absolu, c'est des situations exceptionnelles où c'est quand même blanc ou noir, où il faut faire un choix, où il faut s'engager, et il faut s'engager à la vie, à la mort. Il faut comprendre ces choses-là pour bien saisir un peu la nature d'une démarche, la nature d'un engagement, la nature parfois d'un sectarisme. Moi, j'étais très dur dans la clandestinité. Mes camarades, mes courriers, tout ça, disaient « Maurice, tu n'étais pas facile, toi. Tu n'étais pas facile, il y avait beaucoup de rigueur. C'est vrai que les règles de sécurité comptaient beaucoup dans nos mises en garde et tout. Mais enfin, je reconnais que j'étais pas facile. Et c'est pas ma nature, pourtant. Je pense que je suis très généreux, par nature. Mais il y avait, ces circonstances-là, où il y avait, je me rappelle, une Odile là de Villeurbanne, je l'ai envoyée à Grenoble. Quand toutes nos équipes sont tombées le 11 novembre, elle avait 20 ans, elle dit, Odile Réa. Je l'envoie, je dis, tu vas à Grenoble, tu vas prendre le relais, il faut construire toutes les fiches P et les jeunesses communes. Et les autres, et je dis, ils sont tous morts. On ne dit pas ça à quelqu'un de 20 ans, ils sont tous morts. Elle a gardé ça, elle en parle encore. Elle dit, Maurice, tu m'as dit, ils sont tous morts. Et tu m'as laissé tomber, il a fallu que j'aille là-bas. Quand on est comme ça. Vous voyez, le verbe, des fois, il arrive à transposer le fond caractériel qui vous particularise. Ça, c'est douloureux. Pour ça qu'on n'aime pas parler de ces choses-là. La résistance, on a attendu des décennies à en parler. Moi, mon premier livre, c'est en 1965, je crois. Jamais j'aurais pensé, les premières années, que j'allais parler de la résistance. Parce qu'il y a ces plaies qui restent, il y a cette démesure. Il y a, bien sûr, tous ceux qui ne sont plus là. Mais on est presque culpabilisé dans une certaine mesure. On est presque culpabilisé parce que on n'était pas des stratèges, on a fait des imprudences, on a fait sans doute des bêtises. Et c'est l'accumulation de tout ça qui fait que ça crée comme un malaise en vous-même. Et ça, c'est
un peu curieux parce que vous dites, parce que les gens comme vous qui ont vécu et agi des choses disent ça. Et en même temps, on a vu que dans l'histoire de la France d'après-guerre, on a instrumentalisé, enfin tous les Français étaient devenus résistants à partir de 1945. On a mythifié cette résistance pour en faire le fondement politique de la nation pendant, ça a duré 30 ans cette affaire pratiquement. Aujourd'hui, ça s'estompe.
Ce qui veut dire qu'on est encore resté seul. Comprenez, on ne pouvait pas s'intégrer dans ce courant, dans cette mystification, dans cette caricature d'une histoire telle qu'elle s'était déroulée. Alors on était spectateurs, on écoutait ça, on disait quand même c'est pas possible. Et puis il y a quelque chose qui nous a beaucoup marqué, c'est la déportation. Parce que la déportation, on ne savait pas ce qui les attendait, les copains. Quand les copains étaient arrêtés, on disait, bon, mais au moins il sauve sa peau, lui. Il est déporté, il sauve sa peau. On a dit ça très longtemps. Parce que même si nous avions une notion de ce que représentait un camp de déportation en Allemagne, de ce que exprimait le génocide, on avait déjà vu en 1933 certains livres qui étaient parus sur les camps de concentration en Allemagne. Mais on ne pouvait pas imaginer l'inimaginable. On n'avait pas évalué, on n'avait pas pesé ça. Lorsqu'il y a eu le Oradour-sur-Glane, C'est moi qui ai apporté la nouvelle ici en zone sud à Lyon. Les camarades n'ont pas publié l'information. Ils n'ont pas voulu me croire. Ils ont dit, mais Maurice, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai ce que tu racontes, on ne fait pas brûler une église. On a attendu 15 jours. Ils disaient, mais c'est pas vraisemblable. Alors le fait qu'on ait... On a eu cette opinion, les copains, tout ça, vous voyez, on n'a peut-être pas fait assez, même pour certains trains de déportés, peut-être aurions-nous pu éviter des fois dans des actions armées que nous avions et tout, mais on disait, après tout, ils sauvent sa peau, vous voyez, ils n'étaient pas fusillés, ils n'étaient pas... On soufflait presque, on soufflait. Et quand la déportation, il y a eu cette révélation de la déportation à la libération, moi je vois toujours... ce train de déporté là-bas, en gare de Perrache, mais ça a été terrible pour moi, j'ai dit, enfin, c'est pas possible. Quand j'ai vu à Gignac, là-bas, mes camarades qui avaient été au même procès que moi, revenir de Mauthausen, mon cousin, revenir de Dachau, j'ai dit, mais c'est pas possible, on est quand même coupable, on est culpabilisé, vous voyez, on porte tout ce poids, on porte tout le poids d'une histoire, et c'est pas simple. Parce qu'encore, on est un peu seul, vous voyez. On n'est pas accessible dans notre jugement, dans notre raison.
Depuis lors, ça s'est bien gâté.
Sont venus des êtres beautés.
Oh, figure sans physionomie.
Je n'ai dit.
Ces salopards. Faudra s'en occuper d'ardard. Quelques chenilles.
Ils l'ont fait, c'était un sale truc.
Ça a fini à Ravensbrück. Pas un a voulu se mettre à table. Marie là-bas est la maigrie. Ses cheveux noirs sont devenus tout gris, sont un de sable. Délivrée enfin des SS,
elle a retrouvé son tiroir caisse, les gars.
Cinq disparus sans trace.
Elle a fait recrépir les murs avec un petit filet d'azur
autour des glaces. Eugène est rentré un coup de vieux, lui aussi il a dit mon Dieu. Il y a eu un grand silence, elle a fait un geste, il a ri. Ah non, maintenant c'est fini, la résistance.
La résistance.
Fait-il que vous saviez si peu de choses sur la déportation, parce qu'au niveau des responsables politiques, il semble bien maintenant établi qu'on savait, quoi, à Londres comme ailleurs, on savait à peu près ce qu'il en était. Je repense aussi au livre de, je ne sais plus le nom, mais c'est Michel Fernandez là, qui faisait partie du convoi d'Achau-Buchenwald, dit bien que la population arrivait à savoir que les convois passaient et leur jetait de temps en temps quelques miches de pain par-dessus les ponts.
Ouais.
Donc il y a des gens, peut-être pas en France, je ne sais pas, là-bas c'était en Pologne, bon, qui savaient à peu près ce qui se passait, quoi.
Ouais,
quelle situation mettait les gens.
Oui, je pense que là-bas, les populations qui étaient voisines de ces camps avaient quand même... Des preuves où on ne pouvait pas ignorer, même si on disait ignorer, on ne pouvait pas ignorer. Mais nous, dans le contexte qui était le nôtre, je parle de la résistance, l'organisation de la résistance, c'était des choses qui étaient presque secondaires, parce qu'il y avait un quotidien, il y avait nos gars qui tombaient, il fallait remplacer, il fallait toujours renouveler. Vous savez, c'est terrible quand tombe un appareil technique ou quand tombe tout un état-major, quand tombent vos responsables, quand à Grenoble, le 11 novembre 43, toutes nos directions sont tombées, la direction des FUJP, la direction des jeunesses communistes, ils ont tous été parmi ceux qui ont été déportés en Allemagne où très peu sont revenus, sur 400, je crois qu'il y en a 30 ou 40 qui sont revenus de là. Quand vous avez ça, oui, les déportés, tout ça, on dit, bon, ben, on était, je dirais qu'on était, on n'était pas critique, mais on disait quand même, il n'a pas respecté les règles de sécurité lorsqu'il a été arrêté, on culpabilisait un peu. Vous savez, un cadre, on n'avait presque pas le droit de se faire arrêter. C'était comme ça la conception. Et puis il y avait toujours le doute. Il y avait toujours le doute, parce que quand vous étiez arrêté, on vous torturait. Et il y en a quelques-uns qui parlaient. Et il y avait toujours le risque du doute sur nos camarades qui étaient arrêtés, pourvu qu'ils ne parlent pas. Il y en a beaucoup qui sortaient, bon ben, ils ont été liquidés d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils devenaient des dangers. Moi, j'ai un exemple personnel. Lorsque je suis arrivé à Lyon en 1943, je suis tombé malade deux mois après. J'étais rue Garibaldi, chez une famille où lui, je me rappelle, il était très pétainiste, ce monsieur. Bon, c'était comme ça. Mais j'étais là, puis à un moment donné, j'avais pas encore mes faux papiers d'identité. J'étais donc venu avec mes papiers d'identité du Lot, là-bas. Et je me suis installé dans cette famille qui me prenait un peu comme son fils. Et moi, bêtement, j'ai donné mon identité. Ils ont dit, bon, j'ai dit, ça risque rien. Vous savez, je me faisais passer pour agent de la Sécanèse à ce moment-là. J'ai dit, ça risque rien.
Qu'est-ce que c'est, la Sécanèse?
Une compagnie d'assurance. Ah. Compagnie d'assurance. Et oui, il fallait justifier un emploi où vous bougez beaucoup.
Cette famille, vous l'aviez trouvée comment? Vous l'aviez
papa, je l'avais trouvée place Bellecour, là-bas. Vous savez, là. Il y avait les annonces, là, comme ça. Je suis tombé là par hasard. Je suis tombé là par hasard parce que j'étais complètement désemparé. Le gars que je devais voir à Lyon, il avait été arrêté. Ça veut dire que je suis resté 3 semaines sans contact à Lyon. Et on m'a laissé tomber, moi. Quand je suis parti de Gignac, il faut voir comment ça s'est passé. C'est Gabriel, il s'appelait, qui est venu me chercher. Il vient me chercher à Gignac. Je vais à la gare de Gignac et Saint-Sac, là-bas, pour prendre le train. Je ne savais pas où j'allais. Il me voit avec un manteau un peu pas très bon état. Moi, je me demandais si on m'envoyait au maquis ou est-ce qu'on m'envoyait. Je ne savais pas du tout où j'allais. Pas du tout, à ce moment-là. Et alors, il m'a dit, ce manteau, tu n'en as pas un neuf. Ben, j'ai dit, j'ai le neuf. Mais il va rechercher le neuf. Et je suis retourné chercher mon manteau. Heureusement qu'il y avait un autre train, qu'on a pris d'autres trains. Bon, et alors, arrivé à Brive... Alors j'avais mon manteau, là, j'étais chouette, hein, mon manteau neuf, hein, comprenez que pour les enterrements chez moi, voyez un petit peu. Et alors à Brive, il me donne un billet pour Lyon, et il me donne un rendez-vous avec un repêchage. Et il me dit, Maurice, on n'a plus rien à faire ensemble. Je me suis trouvé avec ma valise, comme un con, le paysan là-bas, qui ne sait pas ce que c'est qu'une ville. Et je suis arrivé ici, comme ça, tout de go. Vous savez, c'est pas simple. J'arrive avec ma valise, qu'est-ce qu'il faut faire? Le 3 jours après, je vais au rendez-vous, il n'y a personne. Fallait bien, j'ai couché à l'hôtel 2-3 jours, hôtel de l'abondance, là-bas. Il y a les flics qui sont venus, une nuit, pestourique, qu'est-ce que vous faites, un exploitant agricole à Lyon? J'ai dit, nom de Dieu, tu peux plus coucher à l'hôtel. Et alors, c'est là que je suis allé voir ces annonces, là-bas, place Bellecour. Et j'ai vu cette adresse rue Garibaldi. Et je suis allé chez ces gens. Et alors là, bien sûr, ils m'ont demandé ma carte d'identité. Moi, j'ai donné ma carte d'identité. Bêtement.
C'est vrai, à l'époque.
Je ne savais pas du tout je ne savais pas du tout qu'à ce moment-là, quand vous aviez un locataire, vous deviez le déclarer au commissariat de police. Enfin, tout ça. Et moi, je m'installe là. J'étais choyé comme leur fils, là. Et cette femme, je me rappelle, je l'accompagnais des fois au ravitaillement, on prenait le train, enfin, je faisais semblant, vous comprenez, je me dédoublais dans tout ça. Et puis c'est un jour, mon responsable qui me dit, t'es bien logé, hein? J'ai dit, je suis très bien logé, mais t'es pas déclaré au moins. Mais j'ai dit, si. Alors ça a été terrible. Il m'a dit, tu vas plus coucher là-bas ce soir. Là-bas, tu couches pas là-bas ce soir. Tu couches pas là-bas, ça. Et je suis parti comme ça.
Du jour au lendemain.
Ah, je suis plus allé. Je suis allé chercher ma valise. J'ai trouvé, heureusement que j'ai trouvé un autre logement, rue de Créqui. Dans mon livre, j'appelle ça le nid à punaise. J'étais pas loin, vous voyez, de la rue Garibaldi, rue de Créqui. Et 2 jours après, la Gestapo faisait irruption chez eux. Vous voyez comment
Et votre contact, vous l'aviez retrouvé comment?
Après, il y avait des repêchages. Et un mois après, il y avait un repêchage. Et j'ai repris le contact, comme ça. Mais ça a traîné un mois avant que je puisse contacter l'organisation. Et pendant ce mois, il a fallu me débrouiller tout seul. Heureusement que j'étais venu avec l'argent de mes bœufs. Je n'avais pas dit, c'est l'argent de mes bœufs, j'avais vendu les bœufs quand j'étais parti là-bas. Et je ne pouvais pas laisser les bœufs à ma grand-mère. J'ai vendu les bœufs, je crois, je ne sais combien de mille francs. J'ai payé les gars, les premiers permanents que j'ai eus ici. Ils me demandaient à bouffer. Ils disaient, Maurice, est-ce que tu as... C'est l'argent de mes bœufs qui a servi à nourrir. On donnait 1 000 francs par mois à ce moment-là. Mais pour finir là-bas, la Gestapo, et deux jours après. Mais moi, je ne l'ai pas su, ça. Je l'ai su à la Libération. Moi, à la Libération, je suis retourné et je risquais pas d'aller chez ces gens. Lui, vous savez ce qu'il m'avait fait, lui ? Il faut être fou à 20 ans. Il faut être fou. Un brave type, il fumait. Alors je lui donnais, nous, des cartes, tant qu'on voulait, des cartes. On piquait. Il était heureux comme un roi, mon grand-père. Et il m'a... Très pétainiste, je suis allé, enfin, j'aurais dit ça à l'organisation, on m'aurait fusillé, il faut être fou. Je suis allé au meeting de Philippe Henriot. Quand je suis venu chez vous, là, dimanche, il vous a dit, votre collègue, là, je suis venu voir, respecter les lieux, pour que lundi, je me casse pas la figure, je suis tellement distrait, mais enfin, j'ai bien repéré. Et je suis passé sans le Ramon, là. Et ça m'a rappelé, ça le Rameau, que c'est là que j'étais au meeting de Philippe Henriot. Oh, ça devait être en mai 43, même plutôt avril, mars, plutôt avril 43.
Ici, une précision historique sur la date. Henriot a donné cette conférence salle Rameau le 15 mai 1943.
Et c'est ce brave homme-là qui avait une invitation particulière et qui m'a amené. Et moi, pour pas dire ce que je faisais, j'ai dit pourquoi pas. Mais c'est fou, ça. Et j'étais à 20 mètres de Philippe Henriot. Alors qu'il y avait toute la protection, toute une armée, si j'avais eu ordre de le tuer, j'étais en face de lui. Comment le hasard fait les choses? Vous voyez, les circonstances, le hasard aide beaucoup. Alors, et ça s'est passé comme ça. Alors voilà comment je suis parti de là-bas, et comment j'ai eu ma chambre après, et à la Libération, évidemment, ils étaient plus pétainistes, ces gens-là. Ils étaient très heureux d'avoir...
Hébergé un résistant.
Lui, le pépé, il était presque fier de ça. Mais c'est eux qui m'ont raconté. Ils ont mis tout en dessous chez eux. Ils nous ont mis la maison tout en l'air. Vous aimeriez le pétainiste chez lui où on fout tout en l'air. Alors, je crois que c'est des sacrés leçons. Mais moi, j'ai appris ça à la Libération. Comme j'ai appris à la Libération que j'avais été condamné à 5 ans de travaux forcés, comme j'ai appris à la Libération que j'avais été condamné à mort par un tribunal militaire allemand à Lyon. Parce que ça, c'est les prisonniers de guerre qui ont donné l'information. Les prisonniers de guerre, il y avait un journal mural, je ne sais pas quoi, et il y avait l'annonce de ma condamnation à mort. Mais ça, j'en parle pas dans mes livres, parce que j'ai aucune preuve. J'ai fait des demandes auprès du ministère et tout, et j'ai les courriers. Ça a tout été brûlé, soi-disant, là-bas, quand il y a eu le bombardement avenue Berthelot. Et il paraît qu'il n'y a aucune tâche, je ne peux pas parler de ça.
Et à quel titre vous auriez été condamné à mort ?
Parce que j'étais dans la filière de Jean Moulin. J'étais dans la filière de Jean Moulin lorsque nous avons constitué les Forces Unies de la Jeunesse Patriotique, lorsque nous avons regroupé tous les mouvements de jeunesse. À ce moment-là, j'étais aux Jeunesses Communistes, j'étais membre de la délégation Zone Sud des Jeunesses Communistes et j'étais responsable du Front Patriotique de la Jeunesse avec la mission de créer les conditions pour regrouper tous les mouvements de jeunesse. Quand je suis venu à Lyon, c'était la mission qui m'avait été faite, ça a été mon travail ici. Mais ça, c'était le Front Patriotique de la Jeunesse. Il y avait la jeunesse communiste, mais le Front Patriotique de la Jeunesse relevait du Front National et était en lien avec le Conseil National de la Résistance. Donc, quand il y a eu l'affaire Jean Moulin, on a dû nous inclure dans
donc après son arrestation.
Je pense, mais moi, j'ai aucun dossier, j'ai rien là-dessus. Mais on était dans la fille. Moi, je l'aurais vu, Jean Moulin, s'il n'avait pas été arrêté. Parce que Jean Moulin nous contactait qu'une fois que nous étions arrivés en fin de mission, quand le travail était fini. Avant, il y avait des intermédiaires, tout ça.
Alors, la mission, c'était structurer, unifier tous ces mouvements.
Tous ces mouvements, voilà.
Du point de vue organisationnel.
Voilà, c'était une entre autres, parce que j'avais d'autres tâches politiques, tout ça. Mais en particulier, ma venue à Lyon, ça a été ma mission particulière. Parce que comme j'avais créé dans le Lot le Front patriotique de la jeunesse, le Front national, j'avais une expérience. Alors on connaissait un peu mes origines chrétiennes, tout ça. Je pense que j'étais le personnage qui correspondait en tant que jeunesse communiste et Front patriotique de la jeunesse. Et ici, j'avais des équipes, on a travaillé avec des équipes. Disons que les FUJP, c'est surtout le poids des jeunes de l'université de Lyon. Et j'avais un camarade qui s'appelait Guy Bess. C'est Guy Bess avec qui j'étais en contact, qui a commencé à me mettre en relation avec Gilbert Dru, Chira, les FUJ, toutes ces équipes-là. Et que, disons, j'étais le personnage politique qui avait cette mission de structuration de ces mouvements de jeunesse. Et ça, nous l'avons réalisé en septembre 1943.
Ainsi se termine cette première émission d'une série de deux consacrée à un entretien avec Roger Pestouri le 15 septembre 2001. Il s'agissait à ce moment-là d'une première rencontre pour préparer une première émission en direct avec lui qui allait avoir lieu deux jours plus tard. Nous vous proposons la suite de cet entretien dans notre prochaine émission. Au début de cette émission, vous avez entendu « Nul ne guérit de son enfance » de et par Jean Ferrat, puis la chanson de Jean Villard-Gilles, un extrait du moins, le petit café tabac, dans l'interprétation de Michel Buller et Sartlot, et enfin l'émission, l'instrumental de Django Reinhardt qu'il interprétait, Nuage. Bonsoir.
Thank you.